La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de Elcode Séduction dans les studios de Black Box à Montréal.
Ce soir, je reçois une personne qui a créé un spa urbain qui a été nommé parmi les 7 meilleurs spas au Québec selon le magazine Québec Vacances. Elle a également gagné 2 Grands Prix du tourisme. Forte de 22 ans d'expérience clinique en orthothérapie, mentor pour des jeunes entrepreneurs, présidente du groupe Académie de massage scientifique, mesdames et messieurs, voici Huguette Paré! Yes!
Belle présentation, David!
À seconde près. Je pensais pas la réussir bien de même, pour être franc.
Non, c'est très bon. Très, très, très bon.
Bien, bienvenue.
Merci.
Bienvenue à l'émission.
Merci de m'avoir invité.
Bien, ça fait plaisir. Écoute, on a du pain sur la planche ensemble ce soir. Bien oui, il y a trois thèmes qu'on s'est donnés.
Oui.
On va parler, mesdames et messieurs, de fierté. On va parler de recommandations aux entrepreneurs et on va parler de ta devise de vie.
Hmm? Oui, intéressant.
Intéressant. Alors, commençons par la fierté.
Oui.
T'as quand même bâti toute une grande structure professionnelle, des belles choses professionnellement et personnellement.
Oui.
Parle-nous de ça. C'est quoi cette histoire-là de fierté?
Bien, la fierté sur le plan personnel, ma plus grande fierté, c'est sûr que c'est mes enfants.
Mm-hmm.
J'ai deux beaux grands garçons, intelligents, brillants, beaux à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont tous les deux entrepreneurs, des entrepreneurs, des entrepreneurs impressionnants. Ça, c'est ma grande fierté. Ma fierté professionnelle, ça va aux massothérapeutes qui se sont battus pendant des années pour obtenir le statut qu'on a aujourd'hui, la reconnaissance qu'on a aujourd'hui. Puis honnêtement, ça n'a pas été facile. Tu sais, nous autres, là, imagine-toi, moi, j'ai eu mon premier diplôme en massothérapie. J'avais 19 ans en 1979.
Mm-hmm.
Alors, en 1979, tu t'en souviens pas, hein, parce que tu n'étais pas née.
Non,
mais en 1979, une fille qui portait le titre de massothérapeute, c'était obligatoirement une prostituée. Fait que moi, pour faire ma vie de jeune chiquita de 19 ans, j'allais dans les bars, on me présentait des garçons. Bien, dans leur tête, dès que je disais que j'étais massothérapeute, ils s'attendaient toujours à ce que je monte sur une table vers 11h, 11h15. Alors, il y a eu énormément de travail, de patience, il a fallu éduquer la population énormément. Mais ce métier-là, écoute-moi, mon père, il est né avant moi. C'est-à-dire que lui, il a été le premier masso-kinésithérapeute au Québec en 1964. Et, boy, j'étais petite dans ce temps-là, en 1964. Mais à ce moment-là, il était tout seul. Il était le premier, puis il était tout seul. Donc, le temps de former d'autres gens, le temps de faire connaître la profession au grand public, il y a eu un facteur temps où ça a été difficile, et ça a été difficile principalement pour les filles, pour la raison que je viens de te donner. Ça a été un grand défi.
Mm-hmm.
L'autre grand défi, ça a été la reconnaissance comme telle, c'est-à-dire que quelque chose de nouveau qui arrive dans un marché, c'est dérangeant pour certains autres qui sont déjà dans le marché.
Mm-hmm.
Hein, on peut comprendre. Alors, nous, on a dérangé des gens. On a dérangé d'autres professionnels de la santé. On dérangeait parce qu'on n'était pas supposé d'être là à ce moment-là. Mm-hmm. Alors, je te dirais, oui. Moi, j'ai vécu ça là, de 1979 à 1993. Là, je te remonte loin, mais fais-toi-en pas, je ne resterai pas là longtemps.
Ça va bien.
On était poursuivis pour pratique illégale la médecine, pratique illégale la chiropratique, pratique illégale la physiothérapie. Mm-hmm. tous ces gens-là n'étaient pas d'accord qu'on soit là. En fait, à l'époque, on était très méconnus. Tu sais, quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur.
Donc, ça a quand même duré plusieurs années, là. C'est pour
ça
que là.
Très long. Ça a été très long, mais la fin de l'histoire est magnifique. Okay. Mais ça a été très dur. Moi-même, personnellement, j'ai été poursuivie 2 fois pour pratique illégale de la médecine, mais mon père a été poursuivi 22 fois pour pratique illégale de la médecine, pratique illégale de la chiropratique, pratique illégale de la physiothérapie. Écoute, il appelait le palais de justice son chalet. Fait que ça dit-tu que c'était un homme qui avait beaucoup, beaucoup d'humour, puis je pense que ça en prenait une bonne dose pour passer à travers de ça. Nos premières reconnaissances qu'on a eues, David, ça a été la reconnaissance de nos clients. C'est sûr, c'est nos clients qui nous ont fait vivre, c'est nos clients qui revenaient, c'est nos clients qui nous aimaient, puis nous autres, ce qu'on aimait, c'était de les soulager dans leur douleur. Parce que je vais te dire, le massage de relaxation n'existait pas à ce moment-là, c'était juste du thérapeutique. Alors, les clients qui avaient mal venaient nous voir, on réglait le problème, bien, ils nous amenaient la famille, les beaux-frères. Ils nous amenaient plein de gens. Fait que quand tu étais proche d'un village, puis finalement, tu finissais par avoir le curé du village comme client, tu peux être sûr que tu avais fait le tour du village. Okay? Bon, ça a été le développement extraordinaire. La deuxième reconnaissance, ça a été les compagnies d'assurance. Alors, je te dirais, les compagnies d'assurance, le premier gros contrat d'assurance, on l'a eu avec Hydro-Québec. Alors, quand on parle des contrats d'assurance, c'est les contrats d'assurance collective où les clients ont travaillé fort pour que la massothérapie et l'orthothérapie soient dans leur contrat d'assurance. Alors, à partir de 1984, la donne a changé. La donne a changé pour les compagnies d'assurance, parce qu'après Hydro-Québec, ça a été Desjardins, les caisses Desjardins, et ça s'est enchaîné jusqu'en 92, où en 92, toutes les compagnies d'assurance avaient des contrats qui défrayaient les soins.
J'aimerais ça rebondir là-dessus. Comment c'est arrivé là? C'est-tu des clients qui ont goûté à ces soins-là, qui ont dit « Hey, moi, ça m'aide », puis après ça, ils ont piaillé pour « Hey, c'est venu de la base, c'est venu des clients. »
C'est les clients qui sont nos ambassadeurs, c'est sûr.
Qui en ont parlé, fait que là, les compagnies d'assurance…
Ils en ont parlé au syndicat pour que le syndicat puisse travailler pour mettre ça dans un contrat d'assurance. Ça a été comme ça. Et c'est toujours le premier contrat qui est le plus dur à avoir. Les autres sont toujours plus faciles. Je t'apprends rien. Ensuite, ça a été les professionnels de la santé. Les autres professionnels qui nous poursuivaient ont trouvé qu'on devenait intéressant. On était intéressant parce qu'on était populaire puis on était efficace. Alors, à partir de ces années-là, milieu 90, on a vu les chiropraticiens, on a vu les physiothérapeutes engager des massothérapeutes, engager des orthothérapeutes et ça n'a pas arrêté. Aujourd'hui, les cliniques de physio, les cliniques de chiro, ils ont des massothérapeutes, des orthothérapeutes avec eux parce que le succès réside dans le multidisciplinaire.
Donc, en 90, tu as cette grande victoire-là. Fait que ça a pris combien d'années à se rendre là?
Ça a pris pas mal d'années. Ça a pris beaucoup d'années. Je te dirais, ça a été jusqu'en 95. Là. 95, là, ça a commencé à être très intéressant.
C'était plus uniformisé, c'était rendu intégré dans la société.
Non, mais il y avait un engouement. L'engouement commençait à ce moment-là.
OK.
Mais en 93, il y a eu un moratoire du gouvernement du Québec.
Là, tu as quand même 20-25 ans qui a passé là, de combat là, pour se rendre là.
Oui, à partir de 64, à partir du début de mon père là, qui a trouvé ça bien dur, là, il y a eu beaucoup d'années.
64 jusqu'à, mettons, 90, avant que ça commence à être plus facile. Là.
Oui.
Faisons le calcul.
C'était-tu plus facile ou c'était moins difficile?
Ouais, plus moins difficile.
Je pense que c'est plus ça. Ouais. Mais en 93, il y a eu un moratoire du gouvernement du Québec qui a interdit aux corporations professionnelles de poursuivre les non-membres d'une corporation professionnelle. Tu sais, nous autres, à l'époque, on s'appelait les médecines douces. On faisait partie des médecines douces. Là, je te remonte à loin. Là.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est thérapie alternative et complémentaire, mais à l'époque, c'était médecine douce. Et parce qu'ils pouvaient nous poursuivre pour un tout et pour un rien avant ce moratoire-là. Mais à partir de ce moratoire-là, ils ne pouvaient pas nous poursuivre, sauf s'il y avait une plainte du public. S'il y a une plainte du public, ils peuvent poursuivre. Mais je vais te dire, depuis 1993, on n'a plus de poursuite. Ça a été une délivrance. Et là, on a appris à se connaître. Et c'est là qu'on a appris à se connaître, qu'on s'est développé. marché de la masso, ça s'est développé. Je t'ai dit qu'on avait commencé par le thérapeutique. Hein? L'orthothérapie, c'est ça qui a fait grandir. Parce que, bizarrement, c'est peut-être difficile à s'imaginer, mais le massage de relaxation au Québec, il a commencé seulement qu'à partir de 1995.
Oui, oui.
OK? Fait que là, c'est un élargissement de marché. Là. Le premier spa au Québec est né en 1995. C'est Mme Marchessault qui a parti ça à Bromont. Mais elle a commencé l'avènement des spas qui a débuté en 1995 et s'est allé en déploiement fulgurant jusqu'en 2015. Fulgurant. Mm-hmm. Avec le portrait qu'on peut voir aujourd'hui, tout le monde va au spa, tout le monde utilise ces soins-là. C'est vraiment extraordinaire.
Oui.
Après ça, on a eu les médecins.
Oui.
Avant, ils nous poursuivaient. Aujourd'hui, ils prescrivent. Alors, je te dirais, en 2011, on a été au congrès des médecins omnipraticiens de langue française du Canada et on a fait un sondage pour pouvoir voir c'est quoi le pourcentage des médecins qui prescrivent la massothérapie, qui croient en nous.
Mm-hmm.
Bien, 91 % des médecins qui ont été interrogés en sondage prescrivaient la massothérapie. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que la majorité d'entre eux étaient déjà consommateurs de ça. Fait qu'ils connaissaient ça,
mais
là!
Ouais.
Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça, c'est de l'histoire ancienne. Les poursuites, c'est de l'histoire ancienne, mais ça fait partie de tous les débats puis de tout le travail de fond qui a été fait. C'est pour ça que je te dis, je suis tellement fière des massothérapeutes qui ont passé à travers parce que c'était pas facile, ces crises-là, c'était vraiment pas facile.
Est-ce que tu considères que il y a eu ton père, M. Paré, qui a fait ce combat-là.
Oui.
Est-ce que tu considères que tu l'as mené autant que lui? T'as-tu comme pris le flambeau pour continuer? Est-ce que tu considères que c'est un combat de la famille Paré, cette affaire-là? C'est quoi?
C'est un combat de la famille Paré, mais je vais reprendre une de ses paroles.
Vas-y.
Mon père a toujours dit qu'il n'a pas commencé en bas de l'échelle, lui. Il a commencé à construire l'échelle, puis après ça, il est en bas de l'échelle.
Uh-huh.
Fait que je te dirais, pour lui, ça a été encore plus difficile parce que il était le premier. Puis quand tu es premier dans quelque chose, puis tu dois te débroussailler, c'est toujours plus dur, plus difficile. Par contre, il n'était pas une femme. Donc, il n'a pas vécu ce que moi, j'ai vécu avec tout ce qu'on a décrit tantôt.
Mm-hmm.
C'est ça. Mais c'est porté par la famille.
Tu as quand même repris ce flambeau-là pour continuer de faire, si on peut dire, respecter par tout le monde la massothérapie. Le but ultime? Sais-tu que...
La reconnaissance. Donc, le but ultime, c'est la reconnaissance de la profession.
Par tout le monde?
Bien, non.
Par... Vas-y.
Les clients nous reconnaissent.
Oui.
Les autres professionnels de la santé nous reconnaissent.
OK.
Les compagnies d'assurance nous reconnaissent.
Oui.
Ensuite de ça, on a... Les médecins nous reconnaissent. Et ça va bien jusqu'ici, hein? On a passé beaucoup d'étapes.
On oublie qui, là, ouais.
Ensuite de ça, la science nous a prouvé aux plus sceptiques que c'était bon pour la santé, pas juste le bien-être, c'est bon pour la santé.
Ouais, ouais, ouais.
Tu savais-tu qu'il y a une petite université de fond de cours, là, Harvard, qui a fait des études sur le bénéfice du toucher chez les enfants, chez les aînés, chez tout le monde? Ils ont fait beaucoup d'études scientifiques, ils ont fait des méta-analyses et on a été en mesure de mettre la main sur ces méta-analyses-là pour continuer de faire avancer les protocoles de soins. Qu'est-ce que ça l'a donné?
Mm-hmm.
Ça l'a donné que, en 2020, ça ne fait pas tellement longtemps, en 2020, la massothérapie est devenue service essentiel en santé au Québec. Alors, je pense que maintenant, je te dirais, la reconnaissance, elle est totale. Le marché de la massothérapie, le marché du bien-être, le marché de la santé, on s'entend que la population est vieillissante. On devient de plus en plus vieux et le moment où on est malade ou qu'on n'est pas bien ou qu'on a besoin d'aide, il est de plus en plus long. Mm. Donc, je te dirais, la massothérapie, c'est vraiment extraordinaire.
Mais je trouve ça intéressant de voir le nombre d'années que ça a pris. Donc, on parle de 64 jusqu'à
2020.
On a 55 ans. 56 ans.
Oui, je te dirais...
Deux générations de ouais, combats, là, comme
ouais. Puis il ne faut pas lâcher parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir. Tu sais, il y a des soins spécialisés pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Il y a des soins aux aînés, il y a des soins pour la fibromyalgie. Ça, c'est en plein développement. Donc, je te dirais, le marché s'agrandit. C'est tellement merveilleux de faire du bien à quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai pratiqué pendant 22 ans.
Ouais.
Je tiens mon bonheur à former d'autres massothérapeutes. Donc, je multiplie les sources de bien-être. Ça, c'est ma fierté personnelle aussi. Je suis fière de ça. Je suis contente de ça. Puis les massos, c'est tellement des gens de cœur. Fait que eux autres, c'est vraiment l'extension de tout le travail qu'on a fait pendant des années, puis auprès de toutes les instances qu'on a nommées.
OK. J'aimerais ça rebondir sur ton histoire de 22 ans d'expérience. T'as-tu des anecdotes cliniques pour nous autres?
Oh mon Dieu, des anecdotes cliniques.
Et oui, t'en as.
Là, tu me prends par surprise, là. Des anecdotes cliniques.
Ça prend un peu d'improvisation.
Ah, oui, j'en ai. On en a eu, c'est sûr qu'on en a eu. Écoute, je te dirais, il y a un laboratoire qui nous a envoyé, on avait un bain tourbillon, il y a un laboratoire qui nous avait envoyé une petite fiole pour qu'on puisse valider puis vérifier les dosages pour cette fiole de bain moussant à mettre dans un bain thérapeutique.
OK.
Moi, je suis une femme très, 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 très généreuse. Alors, il m'a dit, tu en mets juste sur le bout de ton ongle, tu passes ça en dessous de l'eau, puis tout va bien aller, t'en as assez pour un bain, c'est correct. Mais au lieu de faire des tests sur nous autres, faire des tests sur avec nous, moi, j'ai fait des tests tout de suite sur un client, ça fait pas mal, c'est juste du bain mousse. Le bain mousse, il moussait tellement, David, là. C'était tellement intense. Le bain tourbillon était dans le fond de la cabine et ça n'a pas pris 5 minutes que la mousse sortait en dessous de la porte. C'était drôle parce qu'à un moment donné, quand on a vu la mousse en dessous de la porte, bien, on est allé ouvrir la porte et tout ce qu'on entendait, c'était le monsieur qui était dans le bain puis qui soufflait sur la mousse pour pas étouffer dedans. Là. Tu sais, c'est des choses, je le revois encore, là, c'est des choses qu'on rit après.
Oui, oui. Sur le coup, c'est moins drôle. Là.
Sur le coup, c'est moins drôle.
Ah oui,
c'est moins drôle.
Sur le coup, c'est moins drôle. Puis là, M. Paris, lui, avait commencé avec un centre.
Oui.
Qui était situé à Saint-Hyacinthe au début, je ne me trompe pas.
Est-ce que tu parles de l'école?
Oui.
Sa clinique?
Bien, à un moment donné, il y a eu de quoi à Saint-Hyacinthe au début, puis après, il est arrivé à Drummondville?
Oui, ça, c'était l'académie de massage. Elle a débuté à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, en 82, elle a déménagé à Drummondville.
Fait qu'au début, il y a eu l'aspect clinique que lui avait. Oui, les gens se déplaçaient, tu me corriges si je me trompe, les gens se déplaçaient de Boston pour venir se faire masser. Écoute, dans le temps.
Oui,
ça venait de loin.
C'était pas toute sa clientèle qui venait de Boston.
Non, non.
Mais
c'est sûr.
Papa, il était tout seul
au
Québec. Et il y avait une clientèle qui allait du bas du fleuve d'un côté à aller jusqu'à Boston. On avait des clients américains qui venaient juste pour lui, c'était sûr et certain. Écoute, moi, j'ai vu de mes yeux vus. Et on a vécu ça. Les familles, les grosses familles du bas du fleuve, ils louaient un autobus. Ils arrivaient le lundi matin en autobus. Ils réservaient toutes nos plages horaires. Nous autres, on avait 8 cabines de soins. On était une bonne équipe. Ils réservaient toutes nos cabines de soins. On les traitait l'avant-midi. Après ça, dans l'après-midi, bon, ils s'en allaient chez un oncle, une tante ou proche. Tous les jours de la semaine, 5 jours par semaine. Et le vendredi, ils quittaient puis ils retournaient dans le bas du fleuve.
Quand même.
Et ça, c'était comme ça que ça se passait. Il y avait beaucoup de gens qui optaient pour ça parce qu'il était seul. Ça a d'ailleurs été sa motivation de démarrer une école de formation. Lui, il a démarré une école, c'est parce que sa clinique agrandissait et il formait les gens sur le tas parce qu'il n'y en avait pas d'école. Fait qu'il prenait quelqu'un que ça lui tentait puis qu'il aimait ça et qu'il avait des bonnes mains.
Ouais.
Il le formait dans sa clinique,
mais
la clinique agrandissait trop vite. Il n'avait pas le temps de former. Et c'est là qu'il a décidé, je vais partir une école de formation. Parce qu'à un moment donné, quand sa clinique a eu 6 cabines, c'était assez. Il ne voulait plus qu'elle grandisse. Puis il ne voulait pas avoir d'autres centres de soins. Par contre, en partant à une école, ils pouvaient former des gens qui allaient dans le bas du fleuve, des gens qui allaient dans d'autres villes et qui pouvaient reprendre ces familles-là, qui pouvaient avoir des services plus proches de chez eux.
Oui, oui. Autrement dit, l'idée de l'école, c'est parce que là, le succès c'était trop fort, puis il fallait continuer de grossir puis de développer.
Oui. Mm-hmm. Ça a été ça, sa motivation.
Là, il y a eu Drummondville.
Oui.
Il y a l'école à Drummondville. Puis après ça, plus tard, là, t'as repris le flambeau, puis là, t'es dit, bon, on va extendre ça dans d'autres villes.
Oui. Oui, c'était l'idée avec mon partenaire d'affaires, Martin Boisjoli, qui habite cette région-là, à La Valtrie. C'était, il m'a démontré pur et dur que c'était l'endroit pour s'installer. Il a eu raison.
Mm-hmm.
Donc, on s'est installé à Terrebonne.
L'anecdote est bonne, lui. Comment il t'a proposé ça au début?
Comment est-ce qu'il m'a proposé ça au début?
Comment il est arrivé dans le décor, lui?
Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le décor, Martin? Bien, c'était un étudiant chez nous.
Oui.
Martin, que je ne connaissais pas beaucoup, mais c'était un étudiant très, 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 très brillant. Il finissait son ortho et il m'a demandé une entrevue dans mon bureau, une entrevue pour me parler d'une école de formation à Terrebonne. Moi, je lui réponds, bon, regarde, finis ton ortho, là, puis on en reparlera plus tard. Mm-hmm. C'était une façon un petit peu polie de lui dire que ça ne m'intéressait pas. Et lui m'a amené des grosses pointures. Alors, il m'a amené le directeur du cégep de Terrebonne dans mon bureau, qui est parti de Terrebonne, venait dans mon bureau, pour me parler de l'expansion démographique de cette région-là à cette époque-là.
Mm-hmm.
Et il était assez solide, mon beau Martin. Puis j'ai finalement dit, bien, je pense que c'est une bonne idée, puis on va tenter l'aventure. Donc, on a tenté l'aventure avec Terrebonne.
Fait qu'il a foncé, le jeune. À cette époque-là, il était plus jeune.
Il était jeune,
Il a foncé, il est arrivé, garde, je suis sûr de mon affaire. Puis,
Oui, tout à fait. Mm. Il était très, très jeune.
Uh-huh.
Parce qu'on est allé fêter ça, notre association, Martin et moi.
OK.
Alors, on s'en va fêter ça, un beau souper. Puis, et il me dit, tu dois être fier hein, que d'un jeune homme comme moi, si jeune, qui soit aussi entreprenant. Puis là, ça m'a questionné. J'ai dit, j'ai pas regardé dans sa fiche quel âge qu'il avait, mais il paraissait vieux parce qu'il perdait ses cheveux. Fait que, bon, en tout cas, c'est juste entre toi et moi. On n'en parle pas à personne.
Et nos 500 000 auditeurs.
Oui. Et Martin me dit, je n'ai que 19 ans. Écoute, ça m'a tellement choquée, là. Mais je n'étais pas choquée contre lui. J'étais choquée contre moi.
De ne pas l'avoir détecté, quoi?
De ne pas l'avoir détecté, pas avoir fait mes devoirs.
Uh-huh.
Et j'ai pas regardé. J'ai pas fait mes devoirs. Alors, j'étais choquée contre moi. Mais à quelque part, je pensais que peut-être qu'il me faisait une blague.
C'était juste mental, cette affaire-là, parce qu'il avait fait une bonne performance de présentation.
Une excellente performance. Uh-huh. Tu as tout à fait raison. Okay. Alors, je lui ai dit, sors tes cartes. Et lui, il me dit avec des yeux comme ça, tu vas pas me carter. Oh que oui, je vais te carter. Fait que j'ai dit, là, je vais aller aux toilettes, tu sors tes cartes, puis commande-donc une autre bouteille de vin qu'on puisse noyer le poisson, même comme il faut.
Ah.
Et tu vois, cette année, on fête notre 25e anniversaire de partenariat ensemble.
Hey, ça va vite.
Hey, ça va vite, tu dis. Après Terrebonne, on a fait Laval. Après Laval, on a fait Brossard. Mm-hmm. On a fait Québec, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières. Fait qu'on a 8 collèges ensemble après 25 ans de...
Puis moi, des fois, je dis, des fois, quand j'ai des clients, des fois, ça m'arrive de parler de l'académie puis tout ça. Puis tu me corrigeras si je me trompe, mais quand quelqu'un va se faire masser, n'importe où au Québec, là, que ce soit dans une clinique, que ce soit dans un spa... Grosso modo, il y a quoi? Il y a une chance sur deux que ce soit quelqu'un qui a été formé à l'académie qui le masse. Une chance sur trois, c'est quoi?
T'as-tu un chiffre là-dessus? Un peu plus qu'une chance sur trois parce qu'on forme 80 % des massothérapeutes au Québec.
OK. Fait que sur 100 personnes qui massent dans le Québec, peu importe où, t'en as 80 qui s'est formé par l'Académie de massage scientifique.
Oui, plus ou moins, oui. C'est les statistiques qu'on a.
Non, j'ajusterai mon 80 % le chiffre. OK, c'est bon.
Oui.
OK, c'est intéressant ça, à savoir.
Oui, ah oui, tout à fait.
Puis moi, là, des fois, quand je jase avec des gens, des fois, je le raconte, que tu sais, un peu ce qu'on a entendu jusqu'ici dans l'entrevue, que
oui, oui.
À l'époque, là, on pouvait se faire poursuivre, etc.
Oui, oui, tu sais, absolument. Tout ça.
Puis les gens, ah, ouais, 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 c'est tellement rendu démocratisé, normal de se faire masser que les ah, gens oui. sont pas conscients de ça. Là.
Ah oui, tout à fait.
C'est l'arrière du décor.
Oui, mais faut oui, pas oui. que les gens voient trop l'arrière non, du décor ça. Pendant que la scène se déploie. Après, on peut le raconter.
Oui, c'est vrai, ça.
Après,
ça,
on peut vrai. Le raconter. Et souvent, oui. les pires aventures qu'on a ou qu'on mm-hmm. a eues, c'est souvent drôle de le raconter. Mais oui. sur le coup, c'est loin d'être drôle.
Sur le coup, c'est challengeant. Puis après, oui. ben, tu fais, ouais, oui. ça a été pas pire.
Oui, tout à fait.
Puis, fait que là, c'est une super belle réussite professionnelle. Il y a Merci. Toutes les écoles de massothérapie pas mal partout. Là. Il y en a pas mal partout. Il y en a... mais aussi, il y a eu d'autres compagnies qui se sont greffées autour de ça.
Oui, on a fait du développement vertical. Tu sais, un entrepreneur, tu sais ce que c'est.
Mm-hmm.
T'en es un.
Mm-hmm.
Bon. C'est sûr que mon mari et moi, on a repris l'autre entreprise de mon père, qui était Clinique La Fontaine,
mm-hmm.
qui faisait des soins, mais qui s'est transformée graduellement en société d'importation et de distribution de produits de soins, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit des tables de massage, que ce soit tout ce que les massos ont besoin pour fonctionner puis de conseiller leurs clients.
Mm-hmm.
Ça, ça fait très, très, très longtemps, là, celle-là, on l'a depuis 1993 là, à nous. Et pourquoi je te dis ça, c'est que en 2007, l'académie est en grande croissance, puis on n'a pas vécu vraiment de pic négatif, mais notre comptable nous dit, bon ben là, il serait le temps de pas trop développer l'entreprise, là, il serait le temps d'un peu d'être plus stable pour la prochaine année financière.
Mm-hmm.
Mais pas de développement pour un entrepreneur. Tu sais, ça fait mourir un entrepreneur.
Ouais,
parce que innover, trouver d'autres choses. Mais quand tu innoves et tu trouves d'autres choses, il y a des coûts reliés à ça.
Ouais.
Ben, comme elle voulait, elle nous conseillait de plutôt d'avoir une année un petit peu plus plate.
Oui.
OK, stable. On parlait de stabilité. On a décidé, mon mari et moi, de démarrer un spa. Alors, 12 000 pieds carrés de bonheur. Mm-hmm. Un spa urbain. Alors, on a fait 42 spas hors Québec. On est allé voir ailleurs ce qui se passe pour aller s'influencer puis de faire notre formule à nous.
Mm-hmm.
Et évidemment, on a fait des spas au Québec pour voir ben, c'est quoi, qu'est-ce qui est offert aux clients au Québec et qu'est-ce qu'on a vu ailleurs. En fait, on n'a pas lésiné, on a décidé de prendre la liste des 10 meilleurs spas en Amérique du Nord, puis on les a faites. Comme la plupart est à Las Vegas, ben, on en a profité pour que ça soit agréable, pourquoi pas? Mais on a créé des protocoles de soins. On a fait un soin, écoute, David, un soin qu'on a gagné un grand prix du tourisme avec. Ça s'appelle carte d'embarquement pour Bora Bora. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis un écran au plasma dans la table de massage pour que le client puisse voir, en fait, un avion qui part de l'aéroport et qui atterrit à Bora Bora, de la plongée sous-marine. En fait, toute l'histoire de la Polynésie française, il faut qu'ils sentent imbriqués, implantés là-dedans. La musique, c'est une musique polynésienne. À un certain moment dans le massage, il y a des lampes solaires et les lampes solaires s'allument pour simuler le soleil. On masse avec de l'huile de coconut, de mangue et de lime. Donc, c'est vraiment quelque chose de hors norme qu'on a décidé d'implanter là pour le lancement en 2008. Et on a gagné un grand prix du tourisme avec cette innovation-là. Même encore aujourd'hui, je te dirais que les gens adorent cette expérience-là.
Ça serait quoi ta... On a parlé tantôt de recommandations aux entrepreneurs. Préparez vos questions publiques, ça sent bien. ça serait quoi ta recommandation aux entrepreneurs, des gens qui partent une nouvelle entreprise ou que ça fait peut-être 5 ans qu'ils roulent?
Bon, tu me dis juste une recommandation?
Ouais, lance-toi là, 2-3, ça serait pas pire.
Bien, je te dirais, la chose que les entrepreneurs aiment le moins faire, c'est de faire un plan d'affaires. Mais c'est la chose la plus importante. Moi, tu vois, ça fait plus de 30 ans que je suis en affaires, j'ai encore un plan d'affaires. Ça en prend un plan. Tu sais, c'est pareil comme on dit, on s'en va à tel endroit, bien, ça te prend un Google Maps, ça te prend un GPS pour savoir quelle route qui va être la meilleure pour se rendre. Le plan d'affaires, c'est ça. Mais oui, c'est souvent le plan d'affaires. C'est pas le fun à faire, mais il faut le faire. Ça, je dirais, c'est ma recommandation numéro 1.
OK.
La recommandation numéro 2, ça serait de prendre un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui n'a pas d'activité dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui est totalement à l'extérieur de l'entreprise. C'est quelqu'un en qui tu as confiance. C'est quelqu'un qui a réussi en affaires. Puis un mentor, c'est là juste pour... comment je te dirais ça? Juste pour t'éclairer sur le chemin que tu n'as peut-être pas vu puis que tu devrais prendre. Avec un mentor, on rencontre ça à tous les mois, une fois par mois à peu près, et on mange ensemble, puis il y a toujours un sujet qui préoccupe le nouvel entrepreneur, puis le mentor est là pour l'éclairer. Ça fait du bien, puis le mentor, il est là aussi pour faire ventiler. Ventiler, là, c'est quand on en a ras la cravate, là, et qu'on ne veut pas parler de notre stress, nos inquiétudes à notre conjoint ou notre conjointe parce qu'on ne veut pas l'inquiéter. On ne veut pas en parler aux enfants parce que ce n'est pas les bonnes personnes. Mmh. On dirait qu'à un moment donné, on se retrouve à ne pas avoir la bonne personne pour pouvoir ventiler. Le mentor, il est fait pour ça aussi.
D'ailleurs, tu as commencé à en faire du mentorat.
Oui, j'ai commencé à faire du mentorat. J'adore ça. Mmh. Moi, je me spécialise pour les entrepreneurs féminines. Parce que c'est plus difficile en affaires pour des femmes que pour les hommes, pour X raisons, mais c'est plus difficile. Fait que oui, les mentors, on ne les paye pas, les mentors. Les mentors sont là pour passer au suivant. Fait que je te dirais, il ne faut pas hésiter à demander à quelqu'un, tu pourrais-tu me mentorer en affaires? Le pire qui va se passer, la personne va dire, ben non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas m'en occuper, je pense pas. Bref, on comprend, là. Mm-hmm. Mais se trouver un mentor, c'est vraiment une plus-value. Puis je vais te dire, David, il y a presque 50 % des entreprises qui ne passent pas le cap du 5 ans. Fait que c'est dur, le cap du 5 ans. Fait que si tu dis qu'il y en a la moitié qui ne passent pas le cap du 5 ans, la majorité de ceux qui ferment avant 5 ans n'avaient pas de plan d'affaires. Fait qu'on comprend comment c'est que le plan, c'est bien, bien important. La troisième chose, la quatrième chose, je ne sais pas, dans mes conseils où je suis rendue, ça serait de dire, attends-toi à ce que ça ne soit pas tous les jours facile.
Mmh. Ah, ça, c'est
t'en sûr. Sais quelque chose, hein?
Ah oui.
Mais quand on s'y attend à une situation difficile, c'est moins pire. Quand la situation difficile, elle arrive et que ça nous surprend, c'est pire. Fait que tu t'y attends. Oui, il va en avoir des mauvais jours. Oui, il va en avoir des mauvaises semaines. Oui, il est fort possible que tu aies couché sur le divan de temps en temps parce que tu n'es pas capable de dormir et il faut que tu t'aères l'esprit parce que tu veux trouver des solutions. Oui, ça va être difficile. Concilier travail-famille comme entrepreneur, c'est difficile.
Tu me veux arriver, je m'en allais là, mais juste avant, public, c'est le temps.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, public.
Huguette, quel est l'avenir de la massothérapie 2030-2040, selon le combat qui reste à mener?
Bien, on se bat moins fort maintenant. Je te dirais encore une belle expansion sur le marché dans le domaine de la santé. Beaucoup de nouveaux protocoles de soins qui vont se développer dans les prochaines années. Ce qui veut dire que le marché est en expansion, c'est en plein temps de faire ça comme métier. Ben, je te dirais, il y a beaucoup de gens qui ont un métier à l'heure actuelle qui les stresse puis qui veulent changer de branche. Souvent, ils prennent ça à cause que leur propre stress ont de la difficulté à gérer ça. Fait que c'est le bon temps, bon moment, et ça, j'ai pas toujours dit ça dans les 40 dernières années. pour se lancer en massothérapie.
Mm. All right, merci. Puis, je vais revenir. Merci, public. Je vais revenir sur la conciliation travail-famille parce oui. que moi, c'est quelque chose que j'ai réfléchi, mais plus par rapport à d'autres gens qui m'entourent, qui ont des enfants ou qui ont fait des business aussi. Des fois, je me dis, aïe, aïe, j'ai pas d'enfants, puis c'est quelque chose dans le sens que, oui. N'en jetez plus, la cour est pleine.
Oui.
Toi, tu as eu deux enfants en plus de tout ce qu'on vient d'entendre jusqu'ici, de bâtir tout ça. On est là. Comment gérer le temps, la gestion de temps, tout ça? Qu'est-ce que tu as
dit
là-dessus?
Moi, je vais dire, j'ai eu beaucoup de chance. Dans un premier temps, c'est seulement que le spa que j'ai parti de zéro comme un bébé. Parce que l'Académie de massage et Clinique La Fontaine, c'était des entreprises qui roulaient. Quand je les ai prises, c'était des entreprises connues qui roulaient, qui allaient bien, la formule d'affaires était validée. Ça a été que pour le spa. Et au moment du spa, en 2008, quand j'ai démarré le spa en 2008, mes enfants, ils étaient grands puis ils n'avaient plus besoin de moi.
Mm.
Puis en plus, quand mes enfants étaient jeunes, on avait les deux grands-mamans pour s'en occuper. Et mon mari a pris une pause de 2 ans pour pouvoir s'occuper, quand j'ai eu le deuxième bébé, pour pouvoir s'en occuper. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai été une femme comblée à ce propos-là. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a des jeunes familles, il y a des jeunes parents qui démarrent en affaires, puis ils ont des jeunes enfants à la maison. Puis il faut que tu penses que la nouvelle entreprise, c'est une entreprise qui est considérée comme un bébé. Donc, tu as besoin de t'en occuper en tout temps, tout moment. Donc, ça devient un troisième bébé de la famille ou un quatrième bébé de la famille. C'est pour ça que c'est lourd et c'est difficile, surtout. Si les deux conjoints ne sont pas au même niveau pour le développement de l'entreprise. Alors, si la personne du couple qui démarre l'entreprise n'est pas appuyée par son conjoint, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer.
Ça, c'est une autre affaire.
Oui.
C'est un autre, l'autre débat que des gens ont. Est-ce que je pars en entreprise avec ma blonde ou non? Est-ce que...
Hey, là, tu amènes quelque chose de bien intéressant.
Il y a de la viande là-dedans.
Bien, je te dirais, quand on prend un partenaire en affaires, ton partenaire en affaires, il peut être ton conjoint ou ta conjointe, on s'entend, mais il pourrait être comme moi, Martin Boisjoli, c'était un pur étranger. Ma recommandation, parce qu'on était dans la liste des recommandations, ça serait de dire qu'une relation d'affaires, c'est une relation de couple. Sexe en moins, on s'entend. Mm-hmm. Mais c'est une relation de couple. Ce qui veut dire que c'est bien important de connaître l'autre, mais surtout connaître sa vision, la vision que l'autre a sur le développement d'entreprise. Pas la même vision égale un divorce. Divorce, c'est très coûteux. Très coûteux.
Il me semble qu'il y avait un troisième truc, là, je suis en train de l'échapper. C'est quoi l'histoire de la devise de vie?
Ma devise de vie. Ma devise de vie, c'est la vie est courte, puis on est longtemps mort. Fait que si on est obligé de travailler entre les repas, on est aussi bien aimé ça. Et voilà. Ça, c'est la devise de vie de mon père qu'il m'a transmise, puis mon Dieu qu'il avait raison. C'est ça ma devise de vie, mon beau David.
Moi, j'ai entendu des rumeurs.
Ah oui?
Sur des anecdotes d'un gars qui rentre dans une classe puis qui fait un show où... je sais de quoi tu pourrais me parler.
Quoi?
Tu pourrais me parler de comment... Parce que tu as eu une directrice générale qui était capable de... Comment qu'on fait pour... ramener un groupe ou s'il y a une mécompréhension, ça va sa clientèle, directrice, est-ce que tu es ouverte à parler de ça?
Je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre qu'est-ce que tu veux savoir.
Bon, c'est vrai que c'est pas super clair, mon affaire. Je pense qu'il y avait aussi dans les classes, moi, ce que je me rappelle, ce que j'ai su entre les branches, c'est que tes étudiants, parce que tu as enseigné,
oui.
Les étudiants, des fois, tu allais dans les classes, puis là, tu disais ton fameux « c'est le fun, hein? »
Parce que mon cri de ralliement.
Tu es reconnu là-dessus, hein?
Oui.
Oui, le cri de ralliement, ça vient de où, ça, cette affaire-là?
Bien, Je ne sais pas, c'est venu instantané. Moi, j'aime présenter toujours la vie, donc toutes les composantes de la vie, comme les cours de formation, mais la bride de cours qu'on est en train de faire, j'aime ça présenter ça de façon positive aux étudiants. Donc, ça m'a amené à leur dire, « Hey, vous voyez qu'est-ce que ces techniques-là, ils font, là? C'est le fun, hein? » Et là, évidemment, ben, ça a resté ma marque de commerce.
T'as inventé ça sur le coup de l'émotion.
Toi,
t'as lancé ça comme ça.
Oui.
C'est devenu un...
Ben là, je fais ma tournée des écoles quelquefois, là, et je rentre dans la classe, là, puis les gens, tout en cœur, les groupes disent, « C'est le fun, hein? » Fait que c'est ça. Oui, effectivement, c'est ça. Fait que... présenter la vie de façon positive, c'est stimulant parce que de faire des cours de formation, c'est un peu comme partir une entreprise. Il n'y a pas toujours que des beaux jours quand que je suis un cours de formation professionnelle parce que faut que je m'implique, faut que j'étudie, faut que je pratique. Fait qu'à quelque part, plus nous, comme école de formation, on est capable d'alléger l'atmosphère et que ça soit plaisant. Tu sais, les trois plus belles lettres de l'alphabet, c'est F-U-N. Une journée qu'on n'a pas de fun, c'est une journée perdue. Ça, c'est un autre de mes devises. Puis je vais te dire, dans les 60 dernières années, j'en ai pas perdu une seule.
OK.
Fait que tout est...
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je veux dire que tout est raison de rire. Mes parents étaient deux personnes avec un humour extraordinaire. Très drôle. Moi, j'ai été élevée dans le rigolo. Et ça l'amène une façon de voir la vie rigolo. Alors, chez nous, on a beaucoup d'humour. Mes deux fils, si tu verrais mes deux fils, ils sont drôles, ils aiment rire, ils aiment alléger le poids de la vie. Ben c'est ça, au fond, c'est ça. Puis c'est vrai qu'elle est courte. Puis c'est vrai qu'on est longtemps mort. Fait qu'il faut rire aussi.
Mm-hmm.
Faire ce qu'on aime. Rigole.
Justement, tu as été beaucoup occupé avec tout ça. Et qu'est-ce que Huguette Paris, c'est quoi qui l'intéresse? Dans le sens que as-tu le temps, dans tout ça, de développer des passions? Je sais pas, mettons, tu dis, « Ah, ben moi, j'aime lire telle affaire, j'aime... » Au niveau de la vie personnelle, y a-tu des passions, des loisirs? Y a-tu... je t'amène dans cette zone-là.
C'est drôle parce que tout le monde parle de rechercher l'équilibre. Moi, je suis totalement déséquilibrée, je le dis tout de suite.
OK.
Dans le sens où moi, ce que j'aime, c'est développer des outils pour les massothérapeutes. J'aime faire ça.
OK, c'est intéressant, ça, ce point-là. Donc, oui. Toi, tu disais, moi, là, les gens parlent de... As-tu un loisir dans la vie privée? Non, moi, ce qui me tente, c'est de continuer de développer mon affaire. Ça me passionne.
Oui. Fait
que travailler, tu sentais pas que c'était pas... Et je parle au passé, mais peut-être encore au présent, mais c'était pas une tâche, là. C'était, ben non, j'ai du fun à faire ça.
Non, j'aime ça faire ça.
Fait que t'as canalisé ta passion là-dedans.
Oui.
C'est
encore
ça, j'entends?
Je suis encore au développement, je suis une fille qui développe. Bon,
fait
ça,
que t'étais peut-être moins en mode, je vais me trouver du temps, là, je vais aller faire du vélo ou autre chose. Non, ça t'appelait pas anyway, ça me tente pas, ça me parle pas,
mais
ça.
Mais sais-tu qu'est-ce que mon père disait quand que j'étais jeune? Parce que nous autres, les enfants parés, on a été entraînés à travailler jeune.
Ouais.
Et mon père disait tout le temps, une journée de congé puis des vacances, c'est-tu assez merveilleux? On n'est pas dérangé par le téléphone, on peut mieux travailler.
C'est le meilleur moment de travailler.
Est-ce
que tu considères qu'en général, au fil de ta vie d'adulte, exemple,
oui,
que tu as eu plus de fun à travailler? T'sais, en général, tu disais-tu, bon, c'est un congé, Non, c'est plate, être en congé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail? T'étais-tu un peu là-dedans?
Bien, le mot travail, ça a souvent une connotation négative.
Oui. Qu'est-ce que je peux faire avancer dans mes projets?
C'était
comme la vie professionnelle qui te rappelait, même si techniquement, mettons, tu aurais été en congé, tu dis, tente pas d'aller faire du vélo, ou non, on va. Je suis un peu dedans?
Bien, t'es pas mal dedans, dans le sens où, moi, si je prends pas l'avion, je suis pas capable de décrocher. Alors, si je reste à la maison une journée de congé, oui, je vais être à mon ordinateur, je vais faire des planifications de fun, des créations.
Mais ce n'est pas une torture, ça te tente de faire ça.
Non, ça te tente de faire ça, c'est de la créativité. Okay. J'adore ça.
Fait qu'autrement dit, même dans l'aspect travail, c'est là que ça s'est développé, l'aspect loisir, qui est encore dans la catégorie travail, si on peut dire.
Oui, mais je te dirais, loisir, J'adore le camping, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mm-hmm. COVID oblige. Mm-hmm. C'est les voyages qui me passionnent énormément. D'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller voir comment les gens se traitent, comment les gens se soignent, comment les gens vivent, comment les gens mangent. C'est une autre passion, le voyage.
Ça a été quoi les grandes lectures que tu as faites dans ta vie?
Oh, boy, les grandes lectures.
Ou des domaines que tu quand tu ouvrais un livre, que c'était plus, ça t'attirait plus de lire là-dessus. C'est quoi tu as exploré comme sujet?
J'ai exploré des biographies. Mm-hmm. J'ai exploré des romans policiers. Ça, c'était fait vraiment pour changer d'air, là, les romans policiers. Okay. Les John Grisham, par exemple, qui lui est un avocat. Moi, j'aime ce qui est comme dans les films. Parce que aussi, j'adore le cinéma. Comme dans les films policiers, la justice et tout ça. Moi, mon signe astrologique, c'est balance. Et la balance représente la justice. On dirait que je suis attirée par les films, les procès, puis toutes ces affaires-là, les stratégies des avocats. J'adore ça.
Les thrillers psychologiques un peu?
Oui! Uh-huh. Et les romans, c'est le même principe. Donc, un de mes acteurs préférés, c'est vraiment John Grisham, là-dessus. Oui.
Mm-hmm.
Biographie de Ray Kroc, par exemple, qui a été McDonald's. Mm-hmm. Les biographies de gens qui ont été connus et reconnus, mais des gens d'affaires, ça me passionne. Biographie d'Alain Bouchard, mon Dieu, biographie d'Alain Bouchard de Couche-Tard.
C'était du bonbon.
C'était du bonbon. C'est vraiment, vraiment, vraiment du bonbon. Fait que oui, je dirais c'est plus dans cette veine-là.
Je vais revenir sur l'histoire des enfants puis tout ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des nouveaux papas, des nouvelles mamans qui veulent être travailleurs autonomes ou partir une entreprise? J'ai comme ce flash-là. Là.
À propos de?
Conseil général, conseil de vie, conseil d'affaires.
Bien
un angle mort qu'ils n'auraient pas vu.
Bien réfléchir son projet,
okay.
Le mettre sur papier.
Okay.
Oui, prendre le temps de réfléchir avant de se lancer.
Oui, puis de réaliser que les bières le samedi soir vont peut-être arriver moins souvent. Pendant un bout. Oui. On est-tu prête à se priver pendant un bout?
Bien, c'est ça. Puis aussi d'y aller une journée à la fois. Parce que quand on voit... Tu sais, mon père avait une expression là-dessus qui disait... tu sais, quand on dit créer une entreprise, c'est gros. Mon père, il disait tout le temps... Tu sais, si la journée de ta naissance, on t'aurait montré la montagne de patates pilées que tu étais pour manger dans toute ta vie, tu aurais dit, ben voyons donc, je serais jamais capable de passer à travers. Mais une bouchée par petite bouchée, tu finis à la fin de la vie pour passer à travers la montagne. Je dirais, les affaires, c'est le même principe. On commence l'entreprise petite, puis on évolue au fur et à mesure. Puis il faut penser du jour après jour, surtout quand on a une famille.
Okay. Comment tu te positionnes sur le fameux débat? Tu sais, tu as des gens qui vont dire « Non, on va travailler 5 jours, faut décrocher, c'est important de décrocher. » Fait qu'ils décrochent la fin de semaine puis ils reviennent. Puis tu as l'autre mentalité qui n'a pas le temps de niaiser, c'est 7 jours sur 7 puis on paye sur le gaz. Comment tu te positionnes là-dedans?
Eh bien, ça, c'est une question piège.
Ben
écoute, je te dirais…
Je te laisse broder ça.
Je te dirais, moi, j'ai toujours été dans le fond. Carrément dans le fond.
Mm.
Mais après des années, parce que j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 20 ans, mais après des années, j'ai frappé mon mur, moi aussi. Fait que la recherche d'équilibre, c'était, tu sais, je t'ai dit, j'étais une déséquilibrée. Là. Sur le plan des heures de travail, pendant longtemps, ça a été comme ça. Aller jusqu'en 2000...
Mais tu n'avais pas l'impression, je veux dire, toutes les journées passaient, tu faisais une grosse journée. Puis
je faisais des grosses journées.
Mais c'était pas, comment je peux dire ça, c'était pas une torture là,
non,
de rentrer.
Non, c'était pas une torture, j'aimais
c'est ça. C'est ça.
Mais je suis aussi une femme de devoir. Mais ça fatiguait quand même. Il fallait le faire,
ouais.
Je le faisais.
Ouais,
aujourd'hui, les générations comme la tienne...
Ouais.
Travaille plus comme des fous comme nous autres, puis vous avez entièrement raison. Vous avez beaucoup raison parce que oui, décrocher, c'est important. Décrocher des cellulaires, puis des ordinateurs, puis des pads, il faut que ça se fasse, absolument. Et de toute façon, quand on décroche, qu'on réussit à se reposer, je te dirais...
On vient plus énergisé.
On vient, mais plus efficace aussi. plus créatif, plus efficace, plus. Alors, les heures que tu vas mettre, tu vas être capable, plus tu es reposé, moins tu vas mettre d'heures à faire la même chose. Donc, c'est payant dans tous les sens du terme.
Mm-hmm. OK. Est-ce que le public a une autre question?
Cette question est pour David. Mm-hmm. Quel est le meilleur massage qu'il a reçu de sa vie?
Ah, Seigneur. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. le meilleur massage que j'ai reçu de ma vie, hey boy. À quatre mains, c'est pas mauvais, hein? Deux thérapeutes en même temps, là.
Oui, le massage à quatre mains.
C'est pas mauvais, ça.
C'est un massage qui est très, très, très englobant. Ouais. Très englobant, ouais. Oui.
Mais moi, ce qui me. Le soin qui m'a frappé beaucoup, c'est de mixer les bains de sel, c'est ça? Les bains là, que tu flottes dedans, là?
Oui,
mixer ça. Ouais, j'ai trouvé, là, mixer ça. Puis après, si je me rappelle bien, c'était après que j'avais eu mon traitement, là. Les deux, là, ça marque. Tu sais, je l'ai fait une seule fois, puis ça fait déjà plusieurs années, puis c'est incroyable, là.
Mais
c'est,
en fait,
mixer les deux, là.
Ah oui, en fait, à partir du moment où ce que tu fais des bains scandinaves, ça peut être un bain dans une baignoire, des bains scandinaves dans un spa nordique ou peu importe, une source de chaleur. En fait, tu commences à détendre ton corps avant le massage. Donc, le massothérapeute est plus enclin à aller en profondeur dans ton massage parce que tu es déjà prédétendu, tu comprends? Quand il n'y a pas cette préparation-là avant, bien des gens sont tendus comme une corde de banjo. Donc, ça prend plus de temps avant d'aller en profondeur. Donc, il reste moins de temps dans l'heure du massage pour aller profond. Là. Fait que je dirais que c'est une très belle habitude de faire une période de chaleur, en fait. C'est ça, une période de chaleur.
Tu as aussi tous les produits alternatifs. Moi, je me rappelle, j'ai ma petite recette secrète que je vais vous livrer dans quelques instants. Puis, à un moment donné, j'embarque dans le char avec mon chum de gars, puis il me regarde, puis « mec, 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 mec! C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait à ta face, bordel? On dirait que t'es revenu à 20 ans! » Puis là, il était comme « waouh, 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 ta peau, elle chaîne! » Puis là, il se demandait qu'est-ce qui s'était passé.
C'est un intense.
Des fois, il est bien le fun. Et là, je disais, j'ai pris des bains de bout de tour micronisé.
Oui.
Mais sans lui avoir dit, il sait.
Oui.
Si je le vois, puis la veille, j'ai pris le bain, puis je m'en mets dans le visage, il voit tout de suite.
Oui, tes traits sont reposés, puis je vais te dire pourquoi. La différence
c'est quelque chose.
Un bain avec de l'eau ou un bain avec du sel, puis un bain avec de la boue de tourbe micronisée, c'est que c'est un bain minéral, tu as plein de minéraux, tu es bourré de minéraux.
Ouais.
Donc, tu te ressources de minéraux, tu te requinques de minéraux. Et quand on sait que toutes nos activités, tout notre système, tout notre corps fonctionne avec des minéraux, mais on en dépense beaucoup. Ouais. Alors, si on n'en mange pas assez en grande quantité, il faut le prendre quelque part. C'est une bonne façon de prendre ça. Ah oui, on dort assez bien après un bain de bout.
Oui, vous pouvez vous procurer ce produit chez cliniquelafontaine.com. Donc, non, c'est ça, c'est super. Puis, on a une question du public.
Oui, moi, ma question est pour Mme Paris. Ma question est la suivante. Vous avez fait beaucoup de développement de produits chez Clinique La Fontaine avec votre mari, c'est ce que j'ai compris. Et ce que je comprends, c'est que vous aimez énormément voyager. Ça serait quoi les produits essentiels là, à avoir dans son sac? Là, trois produits, là, coup de cœur qu'il faut absolument traîner avec soi si on part en voyage.
Ben, oui, c'est une excellente question. Je te dirais, la première chose, la crème rénovatrice. La crème rénovatrice, c'est une crème totalement nature avec de l'huile essentielle, de lavande, du magnésium, du zinc pour la cicatrisation, pour du après-soleil, pour l'hydratation des mains, l'hydratation du visage, crème de jour, crème de soir. C'est une crème merveilleuse. C'est une crème merveilleuse. On peut tout faire avec cette crème-là. La deuxième chose, un bon merlish. Un bon merlish parce que on se fait une entorse, on se fait mal. On part déjà avec un mal de dos. Fait qu'imagine en voyage, quand on n'est pas chez soi. Mm. Le baume Erlich, c'est un baume anti-inflammatoire, musculo-articulaire, extraordinaire. Je dirais le deuxième produit, c'est le baume Erlich. Troisième produit, parce qu'il en prend rien que trois, je te dirais fort possiblement une cure de désintoxication, parce que quand on va en voyage, on boit beaucoup d'alcool, on mange un peu plus gras, on est dans un environnement différent, fait que notre foie, notre système digestif, souvent, il paye cher pour ça, et si notre système digestif souffre, on souffre. Hein? Je pense que tout le monde a déjà connu ça. Constipé quand tu es ailleurs, c'est pas plaisant non plus. Donc, il y a plein de situations qui font que, je dirais, ça serait ces trois produits-là qui seraient les produits clés pour les vacances.
Mm-hmm. Alors, mesdames et messieurs, nous avons un scoop à vous dévoiler. On vous a gardé le suspense jusqu'ici, même s'il y en a sûrement à la maison qui s'en doute. Mais c'est ma mère, mesdames
oui,
et messieurs!
Oui, c'est mon fils!
Oh là là. Je pense que c'était évident comme un éléphant au milieu d'une pièce, mais c'est pas grave. Ben là, je vais en profiter pour parce qu'on approche tranquillement de la fin de l'émission.
Oui.
Là, je vais en profiter pour moi te lancer mes quelques messages hein, qui vont passer à la postérité. Ça va être enregistré pour toujours. Donc, moi, je voudrais te remercier. J'ai remercié d'autres invités pour d'autres raisons.
Oui.
Mais toi, je voudrais te remercier. Bon. C'est sûr que tu as commencé avec une petite affaire, tu m'as donné la vie. Bon,
c'est
t'es réchauffé comme ça, vu de même. Mais un élément qui me vient en tête, que peut-être les gens pensent peut-être moins sur le coup, je pense que je te l'avais déjà dit, mais c'est pas mauvais de faire des refreshs,
ouais.
C'est que j'ai réalisé beaucoup, surtout dans les dernières années, que vous m'avez permis, là, mes deux parents, d'explorer... Comment je peux dire ça? D'explorer plus que ce que j'aurais pu. Je m'explique. Quand j'étais, par exemple, adolescent ou jeune adulte, ben, vous m'avez beaucoup supporté, payé mes études, tout ça. J'ai été beaucoup aidé à ce niveau-là, au niveau sécurité, confort. Mais ce que ça a fait, c'est que j'étais moins obligé de peut-être de travailler autant d'heures que mes amis. Qui devaient payer leur appartement, leurs affaires. Puis là, ça m'a permis de vraiment comme plus explorer des affaires que j'aurais pas pu sinon, parce que j'aurais juste été à la gorge de payer les affaires. Puis plus tard, maintenant, dans ce que je fais professionnellement, puis tout ça, là, ça paye. Parce que c'est toute cette exploration-là qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est je vis.
Tu vis
de tout ça.
Oui.
Mais j'aurais pas pu sinon. Mais ça, c'est sûr que là, je le vois plus. C'est sûr quand j'étais plus jeune, bon, des fois, mon père devait venir me chercher. Il est là dans le public en plus. Et il devait venir me chercher. Puis là, voyons, pourquoi tu es en retard? Là, aujourd'hui, je comprends. C'est comme moi, il y a pas mal d'affaires à faire dans une vie d'adulte. Et en plus qu'on vieillit, je parle pour moi, mais plus que mon âge avance, plus que je fais « Ouais, OK, ça, je comprends. Ouais, OK. » Puis c'est comme si les subtilités, ils se rajoutent.
Oui.
Tu sais, à 30 ans, je comprenais certaines choses. Là, je viens de frapper le 40. Là, c'est un autre level de « Ouais, OK, les parents ont fait tout ça, puis tout ça. » Puis là, tu vois l'ampleur de la sauce, puis tu fais « Ouais, OK. » Fait que ça, je voulais vous remercier de ça, de m'avoir... Vous m'avez beaucoup enlevé les embûches sur la route, là, tu sais, les grosses pierres au milieu de la route, là, vous les avez tassées, les nids de poules, vous avez mis une belle asphalte pour que j'ai. Puis j'ai pu prendre les routes que je voulais sans trop me.
Oui. On t'a laissé faire ce que tu voulais aussi.
Oui.
Ça, c'est important.
Il y avait quand même une liberté intéressante à l'adolescence, dans le sens que j'ai pu aller chez des amis. Bon. Je vais rentrer à l'heure que je voulais quand même assez...
Mais ça, c'est grâce à ton père, parce que moi, je n'étais pas d'accord avec ça.
Mais ça, j'en suis très reconnaissant aujourd'hui, parce que c'est ça, j'ai pu explorer. C'est sûr qu'à m'emmener, il y avait des limites. Mais ça a été juste à cette corde, pas trop. Je trouve que vous avez réussi à doser ça parfaitement. Ça a été tout un tour de force. Là, je le sais, je le comprends à retardement aujourd'hui, puis en voyant aussi des amis qui ont des enfants, des parents qui me parlent de comment ils vivent ça, puis là, j'écoute ça, puis je fais « la corde n'est pas, est pas assez lousse ou est trop serrée », là, je le vois, puis là, je me revois enfant adolescent, puis moi, j'étais parfaitement ajusté. Là,
la, tu sais, le plus gros travail dans la vie d'un individu, c'est d'être parent. Un, parce qu'il n'y a pas de formation de savoir être un bon parent.
Ouais.
Tu fais ce que tu penses, puis tu fais ce que... C'est pas facile. Et on a, pour moi, j'avais toujours peur de me tromper. On fait-tu la bonne chose? Est-ce qu'il est heureux de cette façon-là? Est-ce qu'on fait bien de le laisser prendre ce chemin-là? C'est vraiment pas facile d'être parent. Mais on a du résultat.
Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je te le confirme, ça a fonctionné.
Ça aurait pu pas fonctionner.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu, puis ben écoute, on arrive tranquillement à la fin de notre super épisode. Est-ce que, oui, y avait-tu une dernière question?
Ben moi, en fait, ma question est pour toi, David.
Oui.
Toi qui es un entrepreneur, ta mère est entrepreneur, vous êtes tous les deux dans des milieux complètement différents.
Oui.
C'est quoi les qualités que tu as héritées de ta mère au point de vue de l'entrepreneuriat?
Bien, je me suis rendu compte avec les années que je ressemblais, que la pomme n'était pas tombée loin de l'arbre, mais j'ai un peu le même mindset du... les vacances, c'est le meilleur moment pour travailler. T'sais, je suis tombé dans la même poutine. Fait que je te dirais que ma réponse, c'est être acharné. C'est être le nonos, je ne lâche pas. Puis à un moment donné, bien, c'est l'espèce de discipline-patience. La patience, je vais t'avoir à l'usure. Fait que c'est ça. T'sais, il m'a amené le client sceptique. Il finit par « Ouais, là, ça fait pas mal de vidéos que je vois passer. Ouais, OK, c'est crédible. » Mais je pense que c'est de famille, ça, parce que ça a été « Yves a fait ce combat-là. Oui. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? »
Oui.
Mais à un moment donné,
c'est sûr, mon père, moi, on était dans des domaines qui n'étaient pas connus. Et
c'est
toi, c'est le même principe.
Oui, j'ai débroussaillé pas mal.
Oui, et c'est dur, débroussailler. C'est très difficile.
Oui. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis, c'est comme un équilibre parce que j'ai un nom composé, Paris Thibault. Mais je pense que ce qui vient des Paris, c'est peut-être plus le côté. Petit côté entertainer, artiste,
oui.
Là, j'ai compris que, bon, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Puis le côté Thibault, ça, c'est plus à ta minute, là, avant de se piger dans le feu, on va analyser un peu plus, là. Fait que,
ah, c'est un bel équilibre, ça vient
rééquilibrer, parce que nous autres, les parents, on a le goût de conquérir le monde, mais le côté Thibault, c'est à ta minute, là, ça se peut que ça brûle. Pense donc 5 minutes avant de te pitcher. Fait que je trouve que ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as un message de fin pour nos éditeurs est-ce qu'il y a un endroit que tu voudrais que les gens te suivent ou suivent les compagnies? Ou y a-t-il un site web, une page de réseaux sociaux?
Y a le site web academiedemassage.com pour les formations en massothérapie et en orthothérapie.
Mm-hmm.
Moi, suivez-moi pas, je vais trop vite. Fait que...
On n'a même pas le temps d'expliquer c'était quoi de l'orthothérapie. Ça n'a pas de bon sens.
C'est vrai.
On ne peut pas arrêter l'émission sans expliquer ça.
C'est vrai.
C'est quoi la différence entre
un massothérapeute et un orthothérapeute?
Bien, c'est quoi la différence entre... OK, je prends un traitement de massothérapie ou de orthothérapie. C'est pas clair pour les gens.
Bon,
on va l'expliquer.
On va éclaircir ça. Alors, un orthothérapeute, c'est d'abord un massothérapeute. C'est un généraliste en massage et il va se spécialiser en orthothérapie. C'est pour aller... travailler sur les muscles de posture, principalement les problèmes de dos. Alors, quand on va voir un orthothérapeute, c'est parce qu'on a des problèmes de dos.
Combien d'heures de formation qui ont de plus, les orthos?
200. Ça fait 1200 heures de formation en tout et partout.
Excellent. Donc, on peut suivre sur academiedemassage.com.
Oui, exact.
Bon, bien, fantastique. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, Balados, Apple Podcasts. Vous avez juste à taper « Delicious Show » et vous allez nous trouver. David Paré, Delicious Show. On se revoit la semaine prochaine pour un autre invité croustillant. À bientôt. Merci.